Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, cette émission, la première de l'année liturgique et de la saison radiophonique, est intitulée « Questions de bioéthique ». En effet, nous parlerons de plusieurs sujets qui relèvent du domaine de la bioéthique et qui sont au cœur des débats de la société actuelle, sujets qui interrogent en même temps la foi chrétienne et appellent des réponses qui sont souvent difficiles. Et si, en raison surtout des impressionnants progrès scientifiques, les questions posées par la bioéthique évoluent sans cesse, les principes éthiques chrétiens restent, eux, immuables, d'où la difficulté de trouver les bonnes réponses aux bonnes questions. Pour en parler, nous recevons le docteur Marc Andronikov, médecin urgentiste, chef de service des urgences adultes à l'hôpital Antoine Becler de Clamart, qui depuis de nombreuses années, confronté lui-même au quotidien à plusieurs questions de bioéthique, réfléchit sur ces questions. Il est notamment co-auteur avec Jacqueline Doxba d'un livre paru en 2005 intitulé « Médecins aux urgences » et a participé entre autres à une journée organisée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, c'était en juin dernier, sur la bioéthique. Marc Andronikov, vous trouvez continuellement face à ces problèmes que l'on appelle bioéthique.
Oui, merci de m'avoir invité pour parler de ces questions qui sont tout à fait passionnantes et motivante pour le médecin, mais aussi pour toute la population qui est confrontée à des avancées techniques, médicales, biologiques impressionnantes depuis une cinquantaine d'années, depuis la fin du XXe siècle. Une révolution complète de la façon de penser la vie, en fait, la biologie, d'où ce questionnement sur bioéthique, c'est-à-dire le... Quelle éthique, c'est-à-dire quelle morale du comportement peut-on avoir, peut-on apporter, peut-on vivre finalement dans ce monde médical et de la société qui a tellement changé depuis ces dernières 50 années. Quand on est aux urgences, on voit arriver des gens toujours, quelle que soit la situation, dans une crise. Et donc nous sommes là pour essayer du mieux possible de dénouer la crise. Cette crise est souvent existentielle, c'est-à-dire on a des gens qui sont dépressifs, mais on a aussi des gens qui sont en arrêt cardiaque. Et quand ils sont là, eh bien il faut savoir ce qu'on va faire. Ce sont des réponses qu'on doit prendre souvent rapidement, mais qu'on ne peut pas prendre trop rapidement. Et donc il faut savoir, pour des gens parfois très âgés ou extrêmement malades, par exemple des gens qui sont atteints de maladies neurologiques dégénératives, des cancéreux très très évolués, qui arrivent chez nous donc en état de crise, il faut savoir comment dénouer cette crise. Est-ce qu'il faut dénouer cette crise en, par exemple, les mettant en réanimation, en les intubant, en mettant sous machine pour respirer? Donc en prolongeant leur vie de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines peut-être, ou est-ce qu'il faut au contraire privilégier ce qu'on appelle des soins palliatifs ou des soins de confort pour que leurs derniers jours, si on pense que ce sont leurs derniers jours, ou leurs dernières semaines, soient les plus douces possibles. Donc ça c'est un choix qui se fait en réanimation, qui se fait dans des services spécialisés, mais qui se fait aussi, bien entendu, dans les services d'urgence. Et c'est une des questions donc, que l'on se pose finalement quasiment tous les jours. Et donc là, on arrive à la question de savoir justement ce qu'on privilégie. Dans la pratique quotidienne, là, on est loin de toutes les considérations éthiques sur les avancées de la science, etc. Là, c'est vraiment de l'éthique au quotidien, de proximité, de prise en charge du malade. C'est jusqu'où doit-on aller pour prolonger sa vie. Et dans cette réflexion éthique au quotidien que l'on doit avoir, j'ai été beaucoup aidé il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ces questions, lorsque j'étais en fin d'internat, justement, savoir jusqu'où on doit aller, j'ai été beaucoup aidé par le philosophe russe Nicolas Berdiaïev, qui a consacré beaucoup d'écrits à l'éthique, et notamment tout un livre qui s'appelle « De la destination de l'homme », un essai d'éthique paradoxale, où il expose son point de vue de ce que doit être l'éthique pour un chrétien. Et donc ce livre m'a beaucoup aidé à l'époque. Et on voit dans les premières lignes, enfin dans les premiers chapitres de ce livre, une chose sur laquelle on ferait bien de réfléchir, c'est que le critère de maximum de vie, qui est en fait le critère qu'on utilise le plus souvent en médecine et dans la société pour décider de politique, le critère du maximum de vie ne peut pas être un critère éthique. Un critère éthique doit obligatoirement être en dehors de ce qu'on évalue, donc le maximum de vie ne peut pas être un critère éthique. Ceci a été une révélation à l'époque pour moi, il y a 30 ans, et c'est ce que j'essaie de mettre en pratique, en fait, devant chez ces malades qui arrivent, c'est-à-dire de se dire qu'en fait, il ne faut pas réfléchir en maximum de vie, mais plus facilement en qualité de vie, ou en, autrement dit, retrouver de la qualité là où la quantité n'est plus le bon critère.
Comment se pose la question quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment en fin de vie? Comment prenez-vous la décision?
Alors là, c'est assez, je dirais assez simple, parce que les médecins ont pas mal réfléchi à la question, parce que c'est quelque chose qui est quotidien, encore une fois, dans beaucoup de services. Donc il y a, je dirais, des lignes de bonne conduite qui existent, que tout le monde connaît, qui sont diffusées, qui est de ne pas se précipiter, de réfléchir, de s'entourer d'avis. Le malade lui-même peut donner son avis, mais si lui ne peut pas le faire, son entourage peut le faire, ou en tout cas ce qu'on appelle maintenant la personne de confiance qui peut parler à sa place, donc on prend son avis. Et puis quand on ne peut pas le faire parce que souvent, parfois les choses sont évidentes, et les familles nous sont très reconnaissantes de savoir lever le pied sur un engrenage médical qui parfois touche à l'acharnement thérapeutique. Et cette situation de crise que les familles vivent en venant aux urgences, finalement, je trouve qu'on arrive pas mal à la dénouer, le plus souvent en levant le pied, ce qui implicitement était une chose que les familles voulaient depuis longtemps, sans oser peut-être le formuler ou bien le dire. Et donc ça, je dirais que ça, c'est la première confrontation éthique dans ma pratique quotidienne, c'est la confrontation des fins de vie, de la limite qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas rentrer dans l'acharnement thérapeutique. Cette limite des fins de vie, je l'ai vécue aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais interne, en réanimation, lorsqu'il s'agissait des fins de vie en réanimation. Vous savez que la réanimation est une technique médicale extrêmement puissante qui a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Elle était inexistante il y a 60 ans et elle s'est développée dans les années 50, puis 60, 70, 80. Maintenant, c'est une technique très puissante avec beaucoup de machines, ce qui permet de prolonger l'existence des malades pendant de nombreuses semaines grâce à toutes les machines pour respirer, pour épurer le rein, des produits qui permettent de soutenir le cœur, la pression artérielle, etc. Donc finalement, on prolonge beaucoup les gens jusqu'à un point où ils peuvent perdre conscience. Et même souvent, lorsqu'ils sont en réanimation, on leur fait perdre conscience. Et donc ils sont dans ce qu'on appelle le coma artificiel. Dans les années 50, une équipe de réanimateurs français, messieurs Mollaret et Goulon, ont trouvé, ils faisaient de la réanimation, que certains malades, finalement, ils avaient plus de conscience alors qu'ils n'avaient pas de produit pour leur faire perdre conscience. Autrement dit, ils étaient dans un état de coma que ces réanimateurs ont appelé coma dépassé. Autrement dit, ils se sont aperçus que quoi qu'on fasse, ces malades en réanimation qui étaient dans le coma, qui avaient perdu conscience, eh bien finalement, ils finissaient par mourir, quoi qu'on fasse, malgré plusieurs jours, plusieurs semaines de réanimation bien conduite. Donc ils ont appelé ça un coma dépassé, c'est-à-dire un coma au-delà duquel, de toute façon, les gens allaient mourir. Et ils se sont dit, et j'ai lu leur publication Princeps, très intéressante, à la fin de leur publication, ils se posent la question éthique, ces gens-là qui sont en coma dépassé, nous avons les critères, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter la réanimation? C'est une question qu'ils posent ouvertement à la fin de leur article. Pourquoi ne pas arrêter la réanimation chez ces gens qui, de toute façon, vont mourir? Quelques années plus tard, donc 10 ans plus tard, la transplantation d'organes s'est développée. Et pour faire de la transplantation d'organes, il faut que les organes soient en bon état. Sinon, ce n'est pas la peine de les prendre pour les placer à quelqu'un d'autre, pour les greffer. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ces gens en réanimation, qui sont en état de coma dépassé, qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, vont sans doute mourir, pourquoi ne pas les prélever, ceux-là, puisque justement, le cerveau, il ne marche pas, mais le rein, il fonctionne, le cœur, il fonctionne, les poumons fonctionnent, le foie fonctionne, les intestins fonctionnent, tout est très bien. Et donc, en 1968, des experts techniques, médicaux, à Harvard, se sont réunis et ont dit, eh bien oui, c'est très bien, ce coma dépassé, on ne va pas l'appeler coma dépassé, on va l'appeler mort cérébrale. Et donc, on va dire que les gens, en coma dépassé, eh bien, ils sont morts. Et comme on dit qu'ils sont morts, eh bien, donc on peut les prélever. Donc il y a eu ce subterfuge en 1968 qui s'est passé, qui fait que maintenant, les gens qui sont en coma dépassé, que l'on a appelé à partir de 1968 mort cérébrale, eh bien, on a dit bah, finalement, bah, donc, ils sont morts, donc on n'a qu'à les prélever. Donc vous voyez, donc, voilà une modification éthique qui s'est passée d'un quelque chose pour lequel on ne peut plus rien faire, les gens vont mourir, à se dire, bah, puisqu'on ne peut plus rien faire, que les gens vont mourir, eh bien, on va dire qu'ils sont déjà morts. Et en fait, nous vivons actuellement en France, et dans la plupart des pays occidentaux, sous ce subterfuge de dire que les gens qui n'ont plus de conscience sont morts, et donc on peut les prélever. Donc c'est ce qu'on appelle en France la règle du donneur mort, on dit qu'ils sont morts. Alors on nous disait à l'époque, ce qui est important, c'est pas tellement le coma, c'est le fait que le tronc cérébral ne fonctionne pas. Alors c'est quoi le tronc cérébral? C'est la partie du cerveau qui est la plus, disons, primitive et qui sert à respirer, à réguler la pression artérielle principalement. Et donc comme cette partie-là ne fonctionnait pas, on a dit, bon, bah, de toute façon, plus rien ne peut fonctionner, donc c'est ça qui définit la mort cérébrale. Donc, si vous voulez, ça, on définissait la mort cérébrale sur une petite partie du cerveau. Et puis, en 1992, j'ai écrit ma thèse, qui s'appelait « Éthique chrétienne et transplantation d'organes », où j'avais réfléchi à ces questions de la mort, en fait. Et je pense que j'ai été le premier en Europe à poser la question de la validité de cette conception extrêmement réductrice de la mort, qui finalement était une sorte de coma dépassé. Je dis en Europe parce qu'en même temps, aux États-Unis, des gens très intelligents et scientifiques écrivaient bien que cette définition de la mort centrée sur une partie du cerveau ne tenait pas la route, n'était pas scientifique. Et des neurologues de grand renom, comme M. Treug, par exemple, qui a encore écrit un article il n'y a pas longtemps, donc dans les années 92, a déjà bien mis qu'il faut reconsidérer complètement cette conception en montrant bien l'absurdité de concentrer la mort cérébrale sur cette petite partie du cerveau. Et alors que je pensais qu'il allait dire « bon, c'est absurde, arrêtons tout ça », pas du tout. Les Américains ont poussé le raisonnement en disant « il faut arrêter de parler de mort ». Et c'est juste, parce que les gens ne sont pas morts. Le cœur bat, le poumon respire sous machine, les reins fonctionnent, le foie fonctionne. Arrêtons de parler de mort. Il faut dire que les gens ont perdu conscience. Comme ils n'ont pas de conscience, ce ne sont plus des êtres humains, puisque la définition de l'être humain se définit par la conscience. Et comme ce ne sont plus des êtres humains, eh bien, on peut leur prélever leurs organes. Donc vous voyez ce double subterfuge qui s'est passé. En France, on reste arc-bouté sur le fait que les gens sont morts, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout morts. Les Américains, depuis longtemps, ont passé à autre chose. Ils sont beaucoup plus carrés, si vous voulez, dans leur réflexion. Pour eux, eh bien, il n'y a pas de conscience, donc il n'y a pas d'être humain, et donc on peut prélever les gens. Donc il n'y a plus de question de mort ou de vie, il y a des questions de stade à partir duquel on peut prélever ou pas prélever des organes. Et ce stade varie, bien entendu, en fonction de la science, etc.
En quelques mots, s'il vous plaît, quelle est la législation en vigueur actuellement en France? À partir de quel moment on peut prélever les organes de quelqu'un?
Alors, on peut prélever les organes de quelqu'un, premièrement, s'il n'a pas dit de son vivant qu'il s'y opposait, premièrement. Ce qui veut dire qu'il faut dire de son vivant qu'on s'y oppose. Toute personne qui ne l'aurait pas dit ou ne l'aurait pas fait savoir d'une manière clair, presque officiel, qu'il s'opposait à ce qu'on prenne ses organes, est un donneur potentiel. Donc nous sommes tous, pour la société, des donneurs d'organes, en fait, potentiels. Ça, premièrement. Donc il faut refuser pour ne pas être prélevé. Deuxièmement, il faut être ce qu'on appelle actuellement, en France, en état de, entre guillemets, mort cérébrale. Or, je vous ai dit depuis 5 minutes que c'est un terme qui est extrêmement mauvais et qui ne recoupe pas des notions très scientifiques, en fait. Mais c'est ce sur quoi on s'arc-boute. Et donc, il y a des critères en réanimation d'électroencéphalogramme plat ou d'artérographie cérébrale avec certains critères qui fait qu'à ce moment-là, on est déclaré comme le cerveau ne marchant pas. Donc, le médecin tamponne que la personne est morte en France, puisqu'il faut être mort. Donc c'était une hypocrisie. Et donc on peut être à ce moment-là prélevé.
On va faire une pause maintenant pour aller dans l'église et les dédier à la première des grandes 12 fêtes, qui est celle de la Nativité de la Mère de Dieu. Et c'est l'hymne Lumière Joyeuse par la chorale Saint-Jean de Massène, dirigée par Serge Sauret. Lumière joyeuse, hymne tiré de la célébration de la Nativité de la Mère de Dieu, chanté ici par la chorale Saint-Jean d'Amassène sous la direction de Serge Sauret. Nous revenons à notre entretien avec le docteur Marc Andronikoff sur les questions de bioéthique. Alors, si vous voulez bien, quelque chose qui a appelé mon attention lorsque vous étiez intervenu récemment dans la journée organisée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France sur le serment d'Hippocrate. Alors, on sait depuis... toujours, j'allais dire, en tout cas depuis l'Antiquité, que les médecins font un serment. Et vous avez parlé d'un changement qui serait intervenu dans le texte lui-même. Donc le médecin ne s'engage plus sur les mêmes choses, mêmes principes qu'autrefois. Si vous voulez, on peut de temps, mais expliquer vraiment quel est ce changement, parce qu'il semble capital.
Oui, c'est un changement très intéressant aussi à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qui fait un basculement complet des conceptions médicales. Le serment d'Hippocrate était ce qui tenait lieu de code de déontologie pendant des millénaires, des centaines de générations. C'est-à-dire que depuis quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, peut-être 200, 300 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à les années 90 du XXe siècle, c'est-à-dire ça fait quand même plus de 2000 ans, c'était le principal code de déontologie. C'est-à-dire que c'est ce serment qui concentrait en lui le code de déontologie médicale. Il n'y en avait pas tellement d'autres, en fait. C'est un serment qui n'avait pas varié pendant toutes ces 2000 ans, à peu près. Et on peut lire dans le serment que j'ai prêté, d'ailleurs, quand je suis devenu docteur en médecine en 1992. C'est encore celui que j'ai prêté. Il disait, il n'était pas très long, mais notamment, il y avait ce paragraphe. « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement. » Je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un PCR abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. C'est l'un des paragraphes au milieu de ce serment. Et vous voyez qu'il y a deux choses là. C'est je ne donnerai pas de PCR abortif, donc c'est la condamnation de l'avortement, qui est une pratique vieille comme le monde. Et je ne donnerai pas de poison, qui est aussi une pratique vieille comme le monde, de vouloir abréger la vie de quelqu'un. À l'époque, c'était souvent des maîtres qui voulaient se suicider pour une raison ou pour une autre et qui faisaient appel soit à un médecin, soit à un serviteur, soit à un esclave pour les tuer. Et donc là, il était clairement dit que le médecin ne devait pas se prêter à ça. Or, le monde a changé. Les médecins ont pratiqué des avortements. Actuellement, on parle de plus en plus d'euthanasie. Et donc, pour, si vous voulez, arranger le fait que les médecins ne soient pas parjures, eh bien, on a changé le serment, qui a donc été modifié dans les années 1990, début des années 2000, qui a changé d'ailleurs, qui est maintenant un peu différent selon les facultés, donc ce n'est plus le même, qui n'est pas le même selon les pays. Et donc chaque faculté maintenant fait un serment à sa sauce, ce qui fait qu'il n'y a plus si vous voulez, de serment un corps. Et donc, il n'y a plus le malade dont parlait le Hippocrate, c'est-à-dire que c'est un malade global, on ne se posait pas la question. Là, parfois, c'est dans certains serments, je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie, d'infirmité. On s'étonne qu'un médecin ne doive pas se faire des considérations sur les maladies, mais ni d'âge, bon. De croyance, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social, ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. Donc, vous voyez, on est obligé de d'éclater un peu l'ensemble pour répondre aux préoccupations de la société actuelle.
Merci. Et pour terminer, donc, pour les 2 minutes qui nous restent, nous sommes chrétiens. Un chrétien est toujours là pour servir la vie. Alors, comment un chrétien peut s'opposer à l'idée de prolonger une vie ou d'améliorer la qualité de vie de quelqu'un, c'est-à-dire, par exemple, de lui offrir des organes qui viennent de quelqu'un d'autre qui, lui, est condamné? Il y a une vraie question qui se pose, la morale, et quel est le critère?
Alors, il y a une vraie question qui mériterait plus que 2 minutes, parce que là, vous me relancez sur les transplantations d'organes. Je crois que le critère de l'éthique chrétienne est assez simple et c'est répété régulièrement par tous les pères de l'Église et par tous les enseignants actuels de la morale ou de l'éthique chrétienne. C'est une éthique qui est sacrificielle. Autrement dit, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne veut pas imposer aux autres. Et donc, c'est une éthique du sacrifice, de l'auto-sacrifice. C'est très important de comprendre ça. Et si on comprend ça, on comprend aussi que le chrétien ne doit pas vouloir toujours plus. Et on le voit bien dans les carêmes, on le voit bien dans l'attitude qu'on a devant la nourriture ou la vie. C'est une attitude de retenue. Et donc, je pense que cette attitude de retenue doit aussi être celle du chrétien devant l'abondance de soins qu'on a devant nous, qui est de se retenir et de ne pas consommer tous les soins qui sont proposés, de même qu'on ne consomme pas toute la nourriture qui nous est proposée à tout moment.
Un principe de vie qui est valable évidemment pour la fin de vie. Marc Andronikov, merci. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Jacqueline Doxois, Médecin aux urgences, paru en 2005. C'était donc Question de bioéthique avec Marc Andronikov. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Pierre Monteil. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.